Rudolf Steiner, mythe et mystère égyptien. Troisième conférence faite à Leipzig le 4 septembre 1908. Nous avons vu hier les correspondances mystérieuses qui existent entre les phases du développement de la Terre et l'esprit des civilisations successives de l'époque post-atlantéenne. Nous avons découvert ce fait curieux que lorsque la catastrophe atlantéenne eut modifié le visage de la Terre, l'antique civilisation sacrée de l'Inde, celle qui précéda les Védas, est, avec sa puissante vision philosophique, comme l'image reflétée des débuts de l'évolution terrestre, alors que le Soleil, la Lune et la Terre étaient encore confondus. Les visions spirituelles des initiés de l'Inde ne furent pas autre chose que la forme vue en esprit de ce qu'était la Terre à son origine. Nous avons vu que la seconde phase de l'évolution terrestre, où le Soleil détaché s'oppose à la Terre-Lune, que cette singulière opposition de deux mondes réapparut comme système philosophique religieux dans la civilisation perse sous la forme du contraste entre le principe de la lumière, l'aura du soleil, et le principe des ténèbres, la lutte entre Ormuzd et Ahriman. La troisième civilisation, celle de l'Égypte, de Babylone, de la Syrie, reflète en esprit ce qui s'est passé lorsque la Terre, le Soleil et la Lune furent devenus trois corps distincts. Et nous avons déjà esquissé rapidement que la trinité Osiris-Isis-Horus répond à la trinité astrale de la troisième époque terrestre, la trinité des astres Soleil, Terre et Lune. Cette séparation s'effectua à l'époque lémurienne, à laquelle succéda l'époque atlantéenne, quatrième grande phase d'évolution terrestre. L'homme était alors doué d'une toute autre conscience. Il vivait avec les dieux qu'il connaissait, ces dieux qu'on nomma plus tard Wotan, Baldr, Thor, Zeus, Apollon, etc. Ce sont des êtres que l'homme de l'époque atlantéenne a pu percevoir de son regard clairvoyant. La répétition de cette vision spirituelle de l'époque atlantéenne se retrouve dans les souvenirs des peuples de l'époque gréco-latine et aussi des peuples du nord de l'Europe. Ce sont les souvenirs d'expériences accessibles à des états de conscience passés. Wotan ou Zeus, Mars, Héra, Athéna, autant de réminiscences des anciennes formes spirituelles qui ont peuplé l'antique monde divin. Il s'avère que les religions de la quatrième période de civilisation reflètent l'évolution terrestre de l'époque atlantéenne. Nous allons plonger un peu plus, aujourd'hui, dans les âmes humaines de l'Inde, de la Perse, de l'Égypte antique. Mais pour apprécier avec exactitude les expériences religieuses qui ont animé ces anciennes civilisations, il ne faut pas oublier que la plupart des gens du peuple et les personnes éclairées, les voyants et les prophètes, étaient tous des successeurs de ceux qui avaient vécu à l'époque atlantéenne, et qu'après la grande catastrophe, tout n'avait pas été perdu. Au contraire, peu à peu, les forces qui avaient agi à cette époque avaient été transplantés dans la nouvelle période. Et nous comprendrons mieux les âmes des descendants de l'Atlantide si nous nous plongeons dans la vie de l'âme des derniers Atlantes. À la fin de l'Atlantide, les hommes étaient devenus très différents les uns des autres. Certains avaient conservé un haut degré de clairvoyance. Cette faculté ne disparut pas d'un seul coup. Elle était encore présente chez beaucoup de ceux qui prirent part à la grande migration de l'ouest vers l'est, tandis qu'elle avait déjà disparu chez d'autres. Il y avait des êtres humains évolués, d'autres qui étaient retardataires, et il est facile de comprendre, vu la voie parcourue par l'évolution, que les moins avancés étaient précisément ceux dont la faculté de clairvoyance était la plus forte, puisqu'ils s'étaient, pour ainsi dire, arrêtés dans leur évolution. et qu'ils avaient conservé l'ancienne faculté des Atlantes. Les plus avancés étaient ceux qui avaient déjà acquis la faculté de percevoir physiquement le monde, se rapprochant déjà de notre mode de perception diurne. Ils avaient cessé de voir le monde spirituel pendant la nuit, mais ils distinguaient de plus en plus nettement les contours des objets pendant le jour. Et c'est cette poignée d'hommes dont nous avons déjà parlé, qui fut conduite par l'un des plus grands initiés, que l'on désigne ordinairement du nom de Manu, et par ses disciples, jusqu'au fond de l'Asie, et féconda de là les autres pays civilisés. Cette poignée d'hommes, qui avaient perdu les premiers la faculté de la clairvoyance, se composait des êtres les plus avancés de ce temps. La conscience de jour devint de plus en plus nette chez eux et avec elle les objets physiques que nous voyons avec leurs lignes précises. Ce peuple avait été conduit très avant en Asie par ses grands guides afin qu'il pût vivre dans la solitude, sans quoi il fut trop resté en contact avec ceux qui avaient conservé l'ancienne faculté de clairvoyance. Il ne put donner naissance à une nouvelle humanité qu'en restant pendant un certain temps séparé des autres peuples. Au centre de l'Asie fut fondée une colonie d'où devaient partir vers les différents peuples les grands courants de civilisation. L'Inde du Nord fut le premier pays qui reçut de ce centre la lumière civilisatrice. Les petits groupes qui furent envoyés comme des pionniers de civilisation ne trouvèrent nulle part de pays inhabités, car avant la grande migration des Atlantes, de l'ouest vers l'est, d'autres migrations avaient eu lieu. Dès que des portions de continents surgissaient de la mer, elles étaient habitées par des groupes nomades. Le peuple, qui venait du cœur de l'Asie, trouvait donc toujours d'autres peuples avec lesquels il se mélangeait. Mais lui, qui avait été conduit par Manu, était plus avancé qu'eux. Parmi ces peuples, beaucoup d'hommes étaient encore doués de l'ancienne faculté de clairvoyance. Les initiés de ce temps ne fondaient pas des colonies comme on le fait aujourd'hui. Ils procédaient autrement. Ils savaient qu'il fallait tout organiser selon l'état d'âme de ceux qui habitaient le pays à coloniser. Les envoyés n'imposaient pas ce qu'ils avaient à dire. Ils tenaient compte de ce qui était déjà en place. Ils établissaient un équilibre entre les deux éléments et prenaient en considération les besoins de ceux qui habitaient le pays, avec leur religion basée sur la mémoire des anciens temps et les facultés de clairvoyance. Il est donc naturel que seul un petit groupe, parmi les plus avancés, ait pu se former des représentations pures. La plus grande partie de la population se forgeait des représentations intermédiaires entre l'ancienne vision des Atlantes et celle qui vint ensuite. C'est pourquoi nous trouvons partout, aussi bien en Inde qu'en Perse et en Égypte, partout où sont nées les civilisations post-atlantéennes, des représentations religieuses moins avancées, moins civilisées, qui n'étaient au fond rien d'autre que des sortes de rejetons des anciennes conceptions atlantéennes. Pour le comprendre, il faut se mettre intérieurement dans l'état d'âme de ces derniers Atlantes. Rappelons-nous qu'ils avaient pendant la nuit des perceptions, comme pendant le jour, si l'on peut parler de jour et de nuit à cette époque. Le jour, ils voyaient d'une manière estompée ce qui est pour nous aujourd'hui le monde si clair des perceptions sensibles. La nuit, ils étaient les compagnons d'entités divines, spirituelles. Point n'était besoin de prouver à l'Atlante l'existence des dieux, pas plus qu'il n'est nécessaire de nous prouver, à nous, qu'il y a des minéraux. Les dieux étaient ses compagnons. Lui-même, la nuit, était une entité spirituelle. Dans son corps astral et son jeu, il parcourait le monde spirituel. Il était un esprit et rencontrait des êtres de même nature. Naturellement, il ne rencontrait pas seulement les hautes entités spirituelles. Il en voyait d'autres, moins élevées que celles qu'on a décrites plus tard sous les noms de Zeus, de Wotan, etc. Celles-ci n'étaient que les plus parfaites. Il en était comme aujourd'hui des rois et des empereurs. Beaucoup ne les voient pas, mais savent pourtant qu'ils existent. En cet état, qui était celui de tous les hommes, on percevait les objets environnants autrement qu'aujourd'hui, bien qu'on fût conscient pendant la journée. Mais la conscience du jour était différente de la nôtre, et il faut que nous essayions de nous représenter comment elle était constituée. Nous avons décrit comment les êtres divins se dérobaient à la vue de l'homme lorsqu'il plongeait le matin dans son corps physique. Il voyait les objets comme enveloppés d'un brouillard. Mais les visions de ces objets avaient encore une toute autre propriété, très singulière, qu'il nous faut arriver à comprendre. Figurons-nous un Atlante s'approchant d'un étang. Il ne voyait pas l'eau de l'étang aussi nettement que nous la voyons. Mais en dirigeant son attention vers cette eau, il éprouvait quelque chose de tout autre que ce que nous ressentons aujourd'hui lorsque nous nous approchons d'un étang. À le regarder seulement, un goût lui montait à la bouche, le goût de ce qu'il voyait, sans qu'il eût besoin de boire cette eau. Simplement en la regardant, il pouvait dire « Cette eau est sucrée ou salée ». Son impression était d'ailleurs toute différente de celle que nous avons aujourd'hui lorsque nous regardons de l'eau. Nous n'en voyons que la surface, nous ne la pénétrons pas. Autrefois, l'homme qui, doué d'une clairvoyance assombrie, s'approchait d'un étang, n'éprouvait pas ce sentiment d'avoir devant lui un élément étranger. Il se sentait uni aux propriétés de l'eau. Supposons que nous soyons arrivés près d'un bloc de sel. Nous aurions, en nous approchant, senti le goût du sel. Aujourd'hui, il faut que nous le goûtions. Autrefois, le voir suffisait. L'homme était encore mêlé à ce qui l'entourait, et les choses étaient pour lui douées d'âme. Il percevait pour ainsi dire les entités qui, par exemple, donnaient aux objets un goût salé. Tout s'animait pour lui. L'air, la terre, l'eau, le feu, tout lui révélait quelque chose. Il prolongeait la sensation jusque dans l'intérieur des choses. Il vivait en elles. Ce qui apparaît aujourd'hui à la conscience comme inanimé ne l'était pas autrefois. C'est aussi pourquoi l'homme éprouvait à la vue de toute chose un sentiment de sympathie ou d'antipathie, parce qu'il en voyait l'âme. Il sentait, il éprouvait la nature intérieure des objets. Les souvenirs de ces expériences subsistaient partout. La population indienne, à laquelle se mêlèrent les colonisateurs de Manu, avait gardé vivant ce lien avec les choses. Elle savait qu'il y a une âme vivante dans toute chose. Elle avait conservé la faculté de voir les qualités des objets. Représentons-nous bien cette faculté. L'homme perçoit, en s'approchant d'un étang, quel est le goût de l'eau. Il voit un être spirituel, celui qui donne son goût à cette eau. Il peut rencontrer cet être spirituel la nuit, lorsque, étendu auprès de l'étang, il est endormi. Le jour, il en a la vision matérielle. La nuit, il voit tout ce qui anime les choses. Le jour, il voit les objets, les pierres, les plantes, les animaux. Il entend souffler le vent. Il entend murmurer l'eau. La nuit, il voit l'intérieur de ce qu'il a ressenti durant le jour. Il le voit sous sa forme véritable. Il voit les esprits qui vivent dans toutes les choses. Lorsqu'il disait « Il y a dans les minéraux, dans les plantes, dans l'eau, dans les nuages, dans le vent, des esprits, partout vivent des esprits. » Ce n'était pas là des créations poétiques de son imagination, c'était quelque chose qu'il percevait. Quand on pénètre à ce point dans les âmes, on s'aperçoit combien il est insensé de parler d'animisme, comme le font les savants modernes qui disent que l'imagination populaire a tendance à personnifier les faits de la nature. Ce genre d'imagination populaire n'existe pas. Qui connaît vraiment le peuple le sait bien. On rencontre souvent chez les savants cette comparaison étrange. Comme l'enfant qui se cogne à une table, bat la table, parce qu'il la croit douée de vie. L'homme primitif, l'homme enfant, à imaginer partout des âmes dans la nature, dans les arbres, etc. On a ressassé cette comparaison jusqu'à satiété. Certes, il y a là de l'imagination, mais c'est celle des savants et non pas celle du peuple. Les hommes qui autrefois ont perçu partout une âme ne rêvaient pas, ils ne faisaient qu'exprimer ce qu'ils percevaient. Cette perception, nous la retrouvons à l'état de souvenir chez les anciens peuples. L'enfant ne considère pas la table comme un objet animé. Il ne sent pas encore l'âme en lui. Il se voit lui-même comme un morceau de bois. Il se met au niveau du bois en le frappant. L'interprétation des savants est à l'exact opposé des faits. Que nous allions en Inde ou en Perse, en Égypte ou en Grèce, nous retrouvons partout ces mêmes visions dont nous venons de parler. Et c'est dans leur moule que fut coulée la civilisation qu'apportèrent les initiés. Dans l'Inde ancienne, ce sont les rishis qui dirigèrent la civilisation. Il nous faut à présent comprendre un peu ce qui a motivé en réalité l'être considéré par la conscience indienne comme l'un des plus importants. Nous savons qu'il y a eu de tout temps des écoles de mystère, où ceux qui pouvaient développer leurs facultés spirituelles apprenaient à reconnaître la nature profonde de l'univers et où ils éveillaient en eux les facultés endormies pour voir l'enchaînement spirituel des choses. De ces écoles des mystères rayonnèrent partout les impulsions spirituelles des civilisations. Afin de bien comprendre les initiés, nous les étudierons à travers les périodes post-atlantéennes, parce que c'est là qu'il est le plus facile de comprendre leur nature. Mais nous trouverions toutefois déjà dans la période atlantéenne quelque chose d'analogue aux écoles d'initiation, et nous allons essayer de pénétrer la méthode d'enseignement qui y était employée, afin de les comprendre vraiment totalement. C'était l'époque où régnaient les états de conscience que nous avons décrits. Si nous remontons à ces époques-là, nous n'y trouvons point l'être humain sous sa forme actuelle. Dans la première moitié de l'ère atlantéenne, l'Atlante possédait déjà un corps physique, un corps éthérique, un corps astral et un jeu. Mais son corps physique n'était pas du tout comme celui d'aujourd'hui. Nous pourrions à peu près le comparer au corps de certains animaux marins, transparents, à peine visibles, tout juste saisissables, déjà parcouru de certaines lignes de force brillantes. Le corps physique de l'homme était beaucoup plus mou qu'aujourd'hui. Il n'avait pas encore d'os, tout au plus quelques débuts de formation cartilagineuse. Par contre, le corps éthérique de l'homme était la partie importante de son être. Le corps physique était plus ou moins petit. Par contre, le corps éthérique était extraordinairement grand. Ce corps éthérique se différenciait chez les individus suivant quatre grands types que l'on trouvait tour à tour chez différents groupes d'hommes. Ces types, nous les retrouvons dans les noms des quatre animaux de l'Apocalypse, le taureau, le lion, l'aigle et l'homme. Il ne faut pas croire que ces formes ressemblaient absolument aux animaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Elles rappelaient seulement l'impression que nous font ces animaux aujourd'hui. Les impressions que faisaient les corps éthériques des hommes pouvaient être rendues par les images du lion, du taureau, de l'aigle ou de l'homme. On comparait par exemple au taureau ceux qui semblaient doués d'une forte capacité de reproduction ou d'un grand appétit. D'autres, qui semblaient avoir une vie spirituelle plus intense, étaient les hommes aigles, qui se sentaient peu à l'aise dans le monde physique. Il en était d'autres encore, dont le corps éthérique ressemblait au corps physique actuel, sans être tout à fait semblable à lui. Il était déjà une sorte de forme humaine. Naturellement, un individu n'avait pas seulement l'un de ses caractères, à l'exclusion des autres. Tous les quatre se trouvaient en lui, mais l'un d'eux dominait. Telle était la constitution du corps éthérique de la population atlantéenne. Le corps astral était puissant, mais non développé. et le je étaient encore tout à fait extérieurs. Les hommes avaient donc un tout autre aspect qu'aujourd'hui. Naturellement, ceux qui évoluaient vite prirent plutôt l'apparence ultérieure. Mais dans l'ensemble, on peut caractériser les hommes comme nous venons de le faire. Leur état normal était celui que nous venons de décrire. Il en était tout autrement pour les êtres plus avancés, pour les élèves des écoles de mystère, ceux qui s'efforçaient d'acquérir l'initiation dans l'ancienne Atlantide. Entrons en esprit dans l'une de ces écoles et essayons d'évoquer ce qu'enseignait le maître. Voyons d'abord qui était ce maître. Un homme qui rencontrerait aujourd'hui un initié ne le distinguerait pas des autres, d'après son aspect extérieur. Très rares sont ceux qui, aujourd'hui, pourraient reconnaître un initié d'après son aspect. Car maintenant que le corps physique de l'homme est bien développé, l'initié qui doit vivre dans ce corps ne se distingue des autres hommes que par des nuances très subtiles. Mais autrefois, l'initié était très différent des autres hommes. Ceux-ci rappelaient extérieurement des animaux. Leur corps physique était petit par rapport au corps éthérique, immense, et ils formaient plutôt une masse animale pataude. L'initié se distinguait des autres par un corps physique déjà plus semblable à la forme humaine actuelle, par un visage qui ressemblait au nôtre, par un front comme en ont tous les hommes aujourd'hui. Son cerveau était très développé pour son époque, tandis que chez les autres hommes, il était encore à peine formé. Ces initiés dirigeaient des écoles où ils choisissaient pour élèves, selon certaines méthodes, ceux qui semblaient les plus mûrs, les plus développés, parmi les hommes. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut se rendre compte clairement que la maîtrise des éléments spirituels constitutifs de l'homme sur son corps physique a presque complètement disparu au cours des temps. Certes, aujourd'hui l'homme peut mouvoir ses bras et ses jambes, trépigner, pédaler. Il peut maîtriser sa physionomie. En un mot, sa volonté domine encore son corps. Mais tout cela n'est qu'un dernier et misérable reste de la domination totale sous laquelle se trouvait, à l'époque atlantéenne, le corps physique. Autrefois, la pensée et le sentiment avaient une influence beaucoup plus grande sur le corps. Ce que l'homme pensait exerçait alors une influence beaucoup plus notoire sur son corps physique. Si on donne aujourd'hui une pensée à quelqu'un pour qu'il la porte pendant des semaines, des mois, voire des années, il est bien rare que l'action de cette pensée pénètre plus loin que le corps éthérique. Très rares sont les cas où le corps physique est influencé par une méditation. Si quelqu'un parvenait ainsi à rendre un front fuyant plus proéminent, c'est-à-dire s'il agissait jusque sur les os de sa tête, ce serait pour l'époque actuelle un résultat extraordinaire. Le cas se présente très rarement. Il faut développer aujourd'hui une immense énergie pour que la pensée agisse sur le corps physique. Il est plus aisé, bien que ce soit encore difficile, d'influencer la circulation du sang ou le mouvement de la respiration. La pensée peut agir aujourd'hui sur le corps éthérique et, dans la prochaine incarnation, elle aura une action si forte que les conditions extérieures du corps physique en seront changées. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, qu'on travaille non pas en vue d'une incarnation, mais de plusieurs incarnations futures. L'âme est éternelle, elle revient toujours. Tout autre étaient les choses autrefois, dans les écoles d'initiation. En un temps relativement court, la pensée parvenait à dominer le corps physique, exerçait son influence sur lui. Le disciple des mystères pouvait, par son propre travail intérieur, se rapprocher de la forme humaine. On pouvait le choisir parmi l'humanité ordinaire. Il n'était besoin que de lui donner une impulsion adéquate. Il n'avait même pas besoin de penser par lui-même. les pensées étaient introduites en son âme par une sorte de suggestion. Il fallait qu'apparaisse devant son âme une forme spirituelle tout à fait précise, dans laquelle il se plongeait régulièrement. Partout, l'initié atlantéen donnait au disciple une pensée nettement configurée dans laquelle il devait se plonger toujours à nouveau. Quel genre d'image était-ce? Quel contenu de pensée le disciple avait-il reçu? Quel était l'objet de sa méditation? Nous avons déjà indiqué quel était l'état de la terre à son origine et esquissé son évolution. Nous avons parlé aussi de la forme de lumière qui habitait la poussière originelle. Si on avait pu voir alors l'atome par clairvoyance, il s'en serait dégagé l'image archétypale de l'homme actuel. Elle grandissait à partir de ce grain de poussière, de cet atome originel. Ce n'est pas la figure de l'homme des époques primitives, ni même celle de l'homme atlantéen qui grandissait ainsi de cet atome originel, mais celle de l'homme actuel. Et que faisait l'initié atlantéen? Il plaçait devant l'âme de ses élèves cet archétype de l'homme, tel qu'il s'élevait du germe primordial. L'élève devait méditer cet archétype. Ainsi, l'initié atlantéen faisait-il surgir devant le regard spirituel du disciple la stature humaine sous forme de pensée modelée, avec toutes les impulsions, tous les sentiments qu'elle contenait. Et quel que fût le type de l'élève, celui du lion ou un autre, rappelons-les rapidement, hein, le lion, l'aigle, le taureau, l'homme. Donc, et quel que fût le type de l'élève, celui du lion ou un autre, il maintenait devant son regard spirituel l'image pensée de ce que devait devenir l'homme après l'Atlantide. Cette pensée devenait son idéal. Il fallait qu'il veuille cette pensée. Mon corps physique doit se former à cette image. Et les forces qui émanaient de cette image dont l'élève devait s'imprégner agissaient sur son corps physique, de telle sorte qu'après un certain temps, le disciple ne ressemblait plus au commun des autres hommes. Certaines parties de son corps s'en trouvaient transformées, et les disciples les plus avancés ressemblaient de plus en plus à l'homme actuel. Ce sont là des secrets étranges, les mystères de l'époque atlantéenne. Quelque chose d'autre nous frappe encore. Quelle que fût la forme des différents êtres humains, une seule image planait devant leur âme, image spirituelle qui existait déjà lorsque le soleil était encore uni à la terre. Et cette image apparut de plus en plus comme le sens de la terre, comme son fondement spirituel. Ce n'était pas l'image particulière de l'une ou de l'autre race. C'était l'idéal commun de toute l'humanité. Et voici le sentiment que devait apprendre à éprouver l'élève lorsqu'il voyait cette forme. Les entités spirituelles les plus hautes ont voulu cette image, cette idée originelle qui doit apporter l'unité aux hommes. Cette pensée, c'est le sens de l'évolution de la Terre. C'est pour la réaliser que le soleil s'est séparé de la terre, puis que la lune a quitté la terre, et qu'ainsi l'homme a pu devenir homme. C'est ce qui sera plus tard l'idéal suprême de la terre. Et cette forme idéale s'emplissait des sentiments qui animaient le disciple pendant sa méditation. C'est à peu près ainsi que les choses se passaient vers le milieu de l'époque atlantéenne. Et nous étudierons comment cette image de méditation, cette forme humaine qui apparaissait aux disciples, se transforma en autre chose et fut sauvée de la catastrophe atlantéenne. C'est ce que nous retrouverons dans les enseignements des initiés indiens et que l'on peut condenser dans l'antique mot sacré « Brahma ». Le sens de l'évolution de la terre telle que l'a voulu la divinité du monde, c'est cela qui formait le noyau sacré de l'enseignement des initiés indiens. Il le nommait Brahma. De là sortirent plus tard la doctrine de Zarathoustra et la sagesse égyptienne, dont nous parlerons par la suite. Nous verrons demain comment, de l'idée de Brahma, est née toute la sagesse égyptienne.